Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Les confirmations sont difficiles à obtenir en Libye. Et pourtant, il est bien aujourd'hui confirmé que nous assistons à un retrait des mercenaires qui travaillent pour la Turquie. Maintenant, c'est un retrait qui est extrêmement limité d'après des informations qui viennent de nous parvenir. Au 30 septembre dernier, il y a 800 mercenaires, essentiellement originaires de la Syrie, qui sont rentrés chez eux. Il resterait environ, selon ces sources libyennes, encore 5000 soldats, 5000 miliciens, mercenaires, tout dépend comment vous souhaitez les appeler, qui seraient toujours sur zone, toujours en Libye. Cela tend donc à démontrer un mouvement qui, malgré tout, réclame d'être nuancé par le fait que on sait que ces derniers jours, il y a 200 nouveaux mercenaires toujours provenant de Syrie qui sont allés en Libye, donc cela relativise le premier chiffre. Mais il y a malgré tout, comme l'avait annoncé la ministre libyenne des Affaires étrangères, ce mouvement à la baisse avec des chiffres qui commencent à nous parvenir qu'on peut malgré tout essayer de comparer. Donc sur les sources libyennes, on est sur 5000 mercenaires. Des sources syriennes qui observent la Libye via les transferts de mercenaires estiment qu'il y a actuellement environ 7000 mercenaires en Libye. Et pour ce qui est des Nations Unies, il serait environ 20 000. On en sait un peu plus sur les tractations qui se déroulent aujourd'hui entre la Russie et la Turquie concernant le retrait. En fait, il se passe la chose suivante, c'est que la Russie dit qu'il faut que les forces étrangères partent, toutes les forces, donc les Turcs, leurs mercenaires, ce qui s'accompagnera à ce moment-là du départ des forces de Wagner. Mais les Russes veulent aussi, en transparence de cette affaire des mercenaires, obtenir que la Turquie revoie à la baisse ses ambitions territoriales en Syrie, sachant qu'il y a depuis plusieurs jours maintenant, quasiment même plus d'une semaine, il y a des rumeurs persistantes d'un éventuel assaut des forces turques qui pourraient attaquer au nord de la Syrie. Donc tout ça, en fait, ça constitue le même dossier, même si les pays sont différents les uns des autres. Il se pourrait malgré tout qu'on puisse aujourd'hui dire, en tout cas, on a des confirmations syriennes que malgré tout il y a des efforts qui sont faits côté turc quant au retrait des mercenaires syriens. L'Algérie, avec ce conseil des ministres qui s'est tenu hier, et le président Tebboune qui a appelé les citoyens algériens à vivre dans un nouveau pays, une nouvelle Algérie qui soit, dit-il, prospère, forte et fidèle à ses principes, à ses valeurs. En revanche, le chef d'État algérien n'a rien dit sur les tensions qu'il y a aujourd'hui en Algérie pour trouver des pommes de terre. Il a été obligé de déstocker 100 000 tonnes de pommes de terre ces derniers jours pour pouvoir éviter les ruptures sur les marchés. Toujours beaucoup de difficultés pour trouver certains produits alimentaires en Algérie. Et sur ces questions-là, le président algérien ne s'est pas prononcé. En Mauritanie, le dialogue politique, il se poursuit avec des rencontres. L'une des dernières a été le cas entre le président mauritanien Razouani et puis Ahmed Dada, le leader du parti Rassemblement des Forces Démocratiques, le RFD. Les discussions ont porté sur les préparatifs des prochaines assises politiques, du dialogue politique. C'est prévu dans les prochaines semaines. On n'a pas encore de date précise, mais a priori, ces assises se dérouleront en présence de la majeure partie de toutes les formations politiques mauritaniennes, donc qui pourront s'asseoir à la table présidentielle et réfléchir ensemble, déjà faire un diagnostic aujourd'hui du pays, puis réfléchir ensemble aux enjeux du futur. C'est inquiétant ce qui se déroule en Irak. On a eu cette tentative d'attentat, une bombe qui a été posée sur le véhicule d'un représentant des forces de l'ordre, un lieutenant-colonel qui heureusement a réussi à échapper à l'explosion qui n'a pas fait de victimes. Cela s'inscrit dans un contexte délétère, un contexte de tension, puisqu'il y a toujours l'incertitude après les élections législatives anticipées qui se sont tenues le 10 octobre. Toujours pas de nom de Premier ministre, toujours pas d'équipe gouvernementale, toujours pas de Parlement qui se réunissent. Et l'on a dans la rue ces manifestations qui ont continué ce week-end, ces mouvements de colère de groupes pro-iraniens qui estiment avoir été floués par le rendez-vous électoral, qui réclame le recomptage des votes, ce qui serait une opération éminemment longue, complexe et qui pourrait encore appeler à des suspicions de manipulation. Il y a des gens qui se plaignent d'interventions sur les réseaux sociaux, qui disent qu'il y a eu trafic. Il y a aussi des gens qui disent que de l'argent a circulé. C'est extrêmement compliqué finalement de sortir de cette séquence électorale, d'arriver à un résultat qui soit peut-être pas satisfaisant pour tout le monde, parce que de toute façon il y a toujours un vainqueur et un perdant, mais un résultat qui soit une base sur laquelle on puisse commencer à construire un futur gouvernement irakien qui puisse s'emparer des dossiers sociétaux qui sont absolument urgents et aussi des dossiers sécuritaires, puisque la lutte anti-groupe État islamique se poursuit au jour le jour. Et c'est vrai que assister depuis quelques jours comme cela à des manifestations quasi permanentes de gens qui sont pro-iraniens et qui disent avoir été floués par ce rendez-vous électoral, cela est sujet à de nombreuses préoccupations. Un avion israélien est intervenu, cela s'est passé aux aurores ce matin. Il a touché deux cibles en Syrie. Ce sont des dommages matériels qui sont notés sur la ville de Al-Bat, qui se situe dans le sud du pays, donc à proximité de la frontière israélo-syrienne. C'est là où les autorités de Tel Aviv se plaignent de la présence quasi permanente de groupes et de mouvements pro-iraniens. Il y a eu ces dernières heures des prises de parole entre Israéliens et Russes pour régler le droit de poursuite qui est aujourd'hui proclamé par Israël pour pouvoir lutter contre ces forces pro-iraniennes qui veulent ouvrir un second front à l'encontre du territoire national syrien. Donc de nouvelles frappes israéliennes en Syrie qui pour l'instant n'ont pas été commentées par les forces de défense israéliennes. Il y a des dégâts matériels, il n'y a pas de victimes humaines. Ce proche Proche-Orient si loin de nous. Notre destination du jour est la Palestine, avec cette annonce du Hamas. S'il n'y a pas une amélioration des conditions pour les prisonniers palestiniens, si les 7 prisonniers actuellement qui font une grève de la faim ne retrouvent pas un train de vie normal, s'ils ne reprennent pas une alimentation normale qui saluerait ainsi une amélioration de leurs conditions d'incarcération, eh bien le mouvement Hamas prévient des dizaines d'autres prisonniers qui sont actuellement retenus dans les prisons israéliennes pourraient à leur tour entamer une grève de la faim, un geste de solidarité parmi les 7 qui sont aujourd'hui toujours en situation de cessation d'alimentation. Il y a le plus vieux gréviste de la faim, il s'appelle Khaled Fasfous, il a cessé de manger maintenant depuis 102 jours, il a récemment été transféré au Kaplan Medical Center, c'est au sud de Tel Aviv, en raison de son état de santé qui s'est considérablement détérioré. Et puis également, on peut parler de ce prisonnier qui s'appelle Muqtad Kawashmeh, qui a commencé sa grève de la faim il y a de cela 95 jours. Il est lui aussi hospitalisé dans un état de grave détérioration. Il y a donc cette solidarité qui s'exprime de la part de ce mouvement Hamas qui s'est toujours engagé par rapport à la population de Gaza à tout faire pour libérer les prisonniers palestiniens qui sont retenus dans les prisons israéliennes. Il serait environ 7000 prisonniers palestiniens répartis dans 17 prisons israéliennes. Et depuis 2000, d'ailleurs, ce sont aussi des chiffres qui sont diffusés aujourd'hui par les Palestiniens, on apprend que plus de 17 000 mineurs ont été arrêtés par les forces israéliennes. Pour ce qui est d'Israël, pour l'instant, on campe une posture de fermeté. Le Hamas, de son côté, dit que si ça continue, il ne donnera plus d'informations des 4 soldats israéliens qui aujourd'hui sont retenus dans ces prisons, les prisons du Hamas. Et puis, signalons que les brigades Ezdin al-Qassam, donc la branche armée du mouvement de résistance, cette brigade a publié la semaine dernière des photos de prisonniers israéliens sur son compte Twitter en déclarant qu'ils ne verront pas la lumière. Ce sont là les mots des brigades Zeynel Kassam, disant « Ils ne verront pas la lumière tant que nos prisonniers ne verront pas la liberté ». Fin de citation. En tout cas, la partie de bras de fer est bel et bien engagée entre les mouvements palestiniens gazaouis qui veulent absolument obtenir l'amélioration des conditions de détention dans les prisons israéliennes, et puis deux, la libération des prisonniers, et puis d'un autre côté, les autorités de Tel Aviv qui n'entendent pas céder à la menace. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.